faire ici à la vie comblée, c'est une petite déclaration de la foi, parce que nous savons que ce qu'on dit avec la bouche en croyant du cœur s'accomplit. Donc, je vous invite à prendre votre Bible si vous avez une Bible avec vous ce matin. Sinon, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte. Vous pouvez prendre cela. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé de gloire en gloire dans l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce matin, j'ai hâte de partager un message. Comme j'ai dit, on va faire une série de messages le mercredi soir sur comment éviter les pièges de l'ennemi. Et la semaine passée, j'ai amené un message sur l'importance de l'eau. Le titre du message, c'est « Il fait chaud, on a besoin d'eau ». Et on a vu des choses concernant cela. Et j'ai quand même dans mon esprit de continuer ce matin, et peut-être pour les prochaines trois semaines probablement, une autre petite série sur comment être comme les arbres plantés. Et pour cela, on va se baser sur un verset de Jérémie 17 que nous avons vu la semaine passée. Donc, si vous avez votre Bible, vous voulez ouvrir votre Bible avec moi à Jérémie 17, ou sinon, regardez sur la feuille, et on va lire cela ensemble. Parce que combien de vous voulez vraiment arriver à la maturité en Jésus-Christ? La maturité et la stabilité, c'est ça que nous cherchons. C'est pourquoi on va prendre ce verset qui parle de comment on peut être comme un arbre planté près des eaux et près des courants d'eau. Et on veut étudier cela et on veut prendre un peu plus de temps. Moi, une chose que j'ai découvert, ça fait quand même au-dessus de 20 ans que je suis dans le ministère, et je sais une chose, que normalement, si on entend un message une seule fois, c'est pas suffisant. Combien de fois vous avez remarqué que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on a besoin de se baigner des fois dans certaines vérités afin que ces vérités deviennent une réalité dans notre esprit. Et c'est ça que nous sommes en train de faire pour les prochaines semaines. J'ai vraiment à cœur de méditer ces principes de comment vous et moi, nous pouvons devenir comme des arbres plantés près des courants d'eau et arriver à la maturité et la stabilité, même si nous vivons dans un monde qui est bousculé. Jérémie 17, 5 dit ainsi par l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. » Combien de chrétiens même sont comme ça? Ils sont encore comme des misérables dans le désert. Ils ne voient pas arriver le bonheur. Ils habitent les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et là, on a même une image ici d'un buisson. La Bible appelle ça un misérable dans le désert. C'est quelque chose qui n'a pas de racines. C'est quelque chose que quand le vent arrive, c'est poussé d'un côté à l'autre. Et c'est pas stable. Et c'est pas ça qu'on veut être dans la vie chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? Qui veut habiter dans les lieux déserts? Qui veut jamais arriver le bonheur? Qui veut être poussé par chaque circonstance et chaque problème de la vie? Personne. Au contraire, nous voulons être comme la parole de Dieu dit ici en verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté. » Tout le monde dit, « Je suis comme un arbre planté parce que je me confie. » Hein? C'est conditionnel. « Parce que je me confie. » Je pense qu'on va recommencer. Hein? Tout le monde dit, « Je suis comme un arbre planté. » Parce que je me confie en l'Éternel. Alléluia, ça c'est pas mal mieux. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. On a parlé de cela la semaine passée. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc là, on voit ces caractéristiques de cet arbre qui est planté près des courants d'eau. Et la première des choses qu'on voit, c'est qu'il n'aperçoit pas la chaleur. Et on a parlé de cela la semaine passée. On a dit que en Jésus-Christ, si on est bien arrosé et si nos racines sont bien plantées et sont étendues vers les courants d'eau, qu'on peut être comme cet arbre qui n'aperçoit pas la chaleur et qui, on pourrait dire, reste calme sous la pression. Amen. Et on sait tous que dans la vie, il y a de la pression. Est-ce que je suis la seule personne qui expérimente la pression de temps en temps? Non, tout le monde ici, hein, que ça soit. Même des fois, la pression peut être bonne. Vous pouvez être en train de faire des bonnes choses. Et il y a quand même une certaine pression. Hier, on a célébré un mariage. C'était extraordinaire. Deux membres de l'Église, Ken et Valérie, maintenant, monsieur et madame, Mafu, ils sont mariés, mais savez-vous quoi? À chaque fois qu'on fait un mariage, il y a toujours un peu de stress et toujours monsieur et madame qui sont un peu nerveux. Il y a une pression, même si c'est une chose positive, n'est-ce pas? Donc, mais si on met de côté les choses positives, dans ce monde, Jésus dit, vous aurez de la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont remarqué qu'au travail, de temps en temps, peut-être une fois par année, il y a un peu de pression? Plus qu'une fois par année? Hein? Des fois, il y a certaines collègues qui tape sur les nerfs ou qui dérange ou des fois certains patrons ou des fois même dans la vie du couple, dans la vie conjugale. Je sais que c'est pas le cas pour les gens de cette église, mais ailleurs, dans les autres mariages, il y a des fois des moments où c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Il y a une pression. Et des fois, c'est pas évident. Des circonstances de la vie arrivent et on a besoin de choisir comment nous allons répondre. Amen. Et comme j'ai dit, j'ai partagé cela la semaine passée, mon histoire de tondeuse. J'avais préparé tout ce message la semaine passée. Je méditais l'importance de rester calme sous la pression. Et combien de fois vous vous rappelez de l'histoire de la tondeuse? Hein? Ma tondeuse a rendu l'âme, donc je suis allé magasiner, parce que moi, j'aime pas juste acheter de même, je veux magasiner, avoir la meilleure qualité pour le meilleur prix, et si c'est possible, avoir de haute gamme pour le prix de bas de gamme. Et c'est ça que j'avais trouvé, vous vous rappelez de l'histoire, mais c'était un démonstrateur, un modèle du plancher, je suis presque gêné de le dire, mais j'ai demandé, et quel genre d'huile est-ce que je dois mettre dans la tondeuse, vous vous rappelez? Elle a dit, oh, ça vient déjà avec de l'huile. Elle a dit, l'huile est dans la tondeuse. Je dis, bon, l'huile est dans la tondeuse. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre du gaz et je pars. Oui, l'huile est dans la tondeuse. Donc, je voulais vérifier, donc, j'ai checké et effectivement, il y avait de l'huile dans la tondeuse. C'était un peu clair. Et pour ceux qui n'étaient pas là, il faut juste que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé. Si vous n'étiez pas là la semaine passée. Alors, donc, je pars à la tondeuse. Oui, ça marche bien, à la merveille. Je donne ça à mon fils. Il fait 5 petites passes dans le gazon et tout d'un coup, clonk, ça s'arrête. Et puis, on a ouvert le truc pour attraper l'herbe. Et bien entendu, il y avait de l'huile dans la tondeuse, dans une bouteille, dans le sac. Et l'huile que j'ai vue, c'était juste l'huile de manufacturier. Donc, il y en avait. Et je sais pas comment, mais c'était vraiment sur le petit bâton et c'est à la bonne place. Mais laisse-moi vous dire. J'ai pensé tout de suite à ce message que j'avais préparé. Comment rester calme sous la pression? Parce que je suis pas encore arrivé à la place où je n'aperçois pas la chaleur. J'ai bien aperçu la chaleur. Il y avait certains sentiments qui se sont levés dans mon âme et dans mes émotions. Et il y avait certaines choses qui se passaient dans ma chair. J'aurais aimé peut-être avoir une réaction. Mais tout de suite, je dis, oh merci Seigneur, je viens de préparer un message sur comment rester calme sous la pression. Et j'ai pris une décision. Hein? Et une chose que j'ai appris avec cela, c'est que si on prend une décision de mettre la parole en pratique, le Seigneur honore cela. Amen. Et déjà, il y a quelqu'un de l'église qui est venu par la suite et il a réussi à partir le moteur. Mais on s'est dit, waouh, c'est merveilleux, ça marche. Sauf que c'était quand même brisé, hein, ça coulait de l'huile. Et savez-vous quoi? J'ai eu de la faveur. Je suis allé voir la vendeuse. J'ai appelé, premièrement, le magasin, en numéro 1-800. J'ai expliqué, bon, va voir le succursale. Je suis allé voir la vendeuse. Elle était super gentille. Elle a dit, oh, ouais, c'est ça. Donc, je comprends l'erreur. Donc, on est allé voir son gérant et son gérant dit, moi, il faut parler avec le directeur du magasin. Savez-vous quoi? Ils m'ont échangé la tondeuse. Et je me suis dit, wow, j'aurais pu perdre mon sang-froid, j'aurais pu crier, parce que comme j'ai dit la semaine passée, je suis quelqu'un qui quand même, de nature, j'ai un tempérament un peu colérique. Demande à maman, quand j'étais jeune, je piquais des crises. J'aurais pu piquer une crise, là. Mais je dis, non, je ne vais pas le faire. Mais je me suis dit, wow, tu sais quoi? Qu'est-ce que ça aurait donné, sauf les ulcères, de piquer une crise ou de crier, puis de peut-être faire toute une démonstration devant tous les voisins ou quelque chose. Et puis, mais dans le fond, j'ai eu quand même une nouvelle tondeuse. Ça ne donne rien de ne pas rester calme sous la pression. Oh, j'aimerais vous dire ce matin que j'ai toujours appliqué ce principe dans ma vie. Je n'ai pas toujours réussi. Mais une chose que je sais, c'est qu'avec le Seigneur, on peut rester calme sous la pression. Et même quand les choses se réchauffent autour de nous, quand les circonstances de la vie pèsent fort, quand les choses nous tapent sur les nerfs, et vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Je sais que vous savez de quoi je parle. On peut rester calme quand les choses commencent à se réchauffer. Et pour cela, ce matin, j'avais à cœur de partager une histoire que nous connaissons tous très bien. C'est l'histoire de trois jeunes hommes hébreux qui étaient en fait amenés captifs dans une période de l'histoire d'Israël. Ils étaient les prisonniers, mais qui ont eu la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et à cause de cela, le monsieur, ou on pourrait dire le leader du pays le plus puissant de l'époque, les a confié certaines responsabilités. Ils ont commencé à avoir de l'influence. Même en tant que captifs, ils sont rendus leaders eux-mêmes. Vous savez de qui je parle? Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Et ces jeunes hommes avaient une fois une occasion assez sérieuse, parce que Nebuchadnezzar, qui craignait pas vraiment Dieu, il a fait un idole, une statue de lui-même. Et il a érigé cela en disant que dès que vous entendez la musique sonner et que la musique joue, tout le monde doit arrêter tout ce qu'ils font, ils doivent fléchir les genoux, ils doivent se prosterner et adorer cette statue que j'ai érigée de moi-même. Ça, c'était l'ordre. Et ici, on a trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui craignent Dieu, qui honorent Dieu. Et ça, c'est pourquoi ils ont eu la faveur de Dieu pour avoir une certaine position d'influence. Donc là, ils sont face à face avec une situation difficile. Comme vous, des fois, vous êtes face à face avec des situations difficiles. Peut-être au travail. Peut-être votre patron va vous demander de faire des choses qui sont pas tout à fait éthiques ou légales. Ou des fois, vous avez des personnes qui mettent de la pression sur vous de faire des compromis. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ou des fois, ça peut être autre chose. Et on ressent la chaleur. Les choses se réchauffent. Et on a une décision à prendre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre l'exemple de ces trois jeunes hommes qui craignaient Dieu. Et on peut savoir quoi faire face à la pression. Première chose qu'on peut faire, numéro un, tenez-vous ferme en parole et en action. Tenez-vous ferme en parole et en action. Quand vous commencez à ressentir la pression ou quand vous êtes face à face avec une situation difficile, première chose à faire, c'est de garder votre bouche et de ne pas dire des bêtises. OK? Comme je dis, ma chef voulait dire les bêtises la semaine passée, quand la tondeuse flambant neuve s'est arrêtée. Et j'ai découvert la bouteille d'huile dans le sac. Plein de choses que ma chef voulait dire. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, je me suis maîtrisé et l'Esprit a fait mourir les œuvres de la chair dans ce cas-là. Mais on a besoin de faire attention à qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait, surtout quand les choses sont... Savez-vous que c'est facile de dire la bonne chose quand tout va bien? Vraiment, le vrai test de qui nous sommes. Si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mettez-vous dans une situation difficile et voir qu'est-ce qui sort. Et j'ai pas dit que vous n'aurez pas des sentiments mauvais, parce que ça arrive. Moi, je suis convaincu que n'importe qui, même si vous êtes chrétien depuis 50 ans, vous allez quand même avoir la chair qui va vouloir réagir. Donc, c'est pas un péché d'avoir les mauvais sentiments ou de vouloir réagir dans la chair. Qu'est-ce qui est important et la chose qui va distinguer une personne qui est mature et enracinée, quelqu'un qui est en arbre planté versus un buisson misérable dans le désert, c'est qu'est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va gérer la situation et réagir. Est-ce qu'il va laisser l'esprit dominer ou est-ce qu'il va laisser la chair dominer la situation? Tenez-vous ferme en parole et en action. On voit cela dans le 15e verset de Daniel. Maintenant, tenez-vous prêts. C'est Nebuchadnezzar qui parle. Parce qu'il est fâché, il a entendu que ces trois jeunes hommes ne voulaient pas flécher les genoux. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, on n'a pas ces genres d'instruments aujourd'hui, hein, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, et vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. N'oubliez pas une chose. Vous et moi, nous avons la Bible entre nos mains. On peut lire la fin de l'histoire. Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'avaient pas la Bible pour savoir exactement qu'est-ce qui allait se passer ou comment ça allait se passer. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que eux autres, ils avaient, c'était la réalité que l'homme le plus puissant de la planète Terre à l'époque, Nebuchadnezzar, celui qui était en charge du pays le plus puissant, est face à face avec eux en train de dire, quand vous entendez la musique, vous allez fléchir les genoux. Sinon, vous serez jetés. Croyez-vous qu'ils étaient sous un peu de pression? Donc là, ils avaient un choix à faire. Est-ce qu'on va écouter l'homme le plus puissant ou est-ce qu'on va écouter le Tout-Puissant? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais ils avaient quand même une pression sur eux. Et on voit qu'est-ce qu'ils ont fait. Et parce que Nebuchadnezzar, il a dit aussi, « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En souligner le mot « répliquèrent ». Ils ont dit quelque chose. Ils ont fait une confession de leur foi. Les paroles de ces jeunes hommes étaient en ligne avec la volonté de Dieu. Ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. » Savez-vous, quand nous sommes sous la pression, il faut se maîtriser. Ça, c'est la marque de la maturité. Il faut qu'on dise ce que Dieu dit par rapport à la situation. Le médecin arrive et il dit que, désolé monsieur, désolé madame, mais votre maladie est avancée, il n'y a rien qu'on peut faire, vous allez sûrement mourir. Donc là, vous avez un choix à faire. Ou, peu importe la situation, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais tout simplement m'accorder avec les circonstances ou est-ce que je vais m'accorder avec la parole de Dieu et dire la même chose que Dieu dit? Ça, c'est la première chose à faire quand nous sommes sous la pression et c'est pas toujours évident, sauf que la bonne nouvelle de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si vous avez mis une abondance de la parole dans votre cœur, c'est ça qui va sortir. OK? Mais il continue, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, ils ont pris position avec leur parole, mais aussi en action. Ils ne vont pas bouger, ils sont comme des arbres plantés. C'est ça qu'on a besoin de faire quand nous sommes sous la pression. On veut être comme des arbres plantés. Je dis la bonne chose, je fais la bonne chose, je déclare ce que dit Dieu. Amen? C'est quoi la deuxième chose qu'on peut faire? Ne soyez pas surprise si les circonstances s'empirent. Ça, c'est le problème. Beaucoup des personnes ne restent pas stables dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout feu, tout flamme. Ils savent quoi faire au début, ils prennent position, ils commencent à déclarer la parole, ils commencent à agir de la bonne manière, et ils s'attendent à ce que toutes les choses vont changer du jour au lendemain. Mais, savez-vous quoi? C'est pas souvent le cas. Normalement, ça peut être même possible, même probable, qu'après avoir pris position, après avoir commencé à déclarer la parole de Dieu, que les circonstances et ce que vous voyez avec les yeux s'empirent. Regardons, qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois jeunes hommes? Si on regarde, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur? Il n'a pas dit, oh, ok, bon, c'est correct, je m'excuse, je ne voulais pas offenser ton Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego, oh, tu as tout à fait raison. Non, c'est pas ça, c'est le contraire. Il s'est mis en colère, il était rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez encore l'homme qui a le plus d'autorité naturelle sur la planète, qui est enragé contre toi. OK? Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Bon, encore, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris position, ils ont déclaré la bonne déclaration de la foi, ils font pas de compromis et pas d'intervention. Les choses s'empirent. Et savez-vous que des fois, ça peut arriver avec vous aussi? Et combien de fois on a des situations difficiles et on a besoin de mettre notre confiance dans le Seigneur. On réclame les promesses de Dieu. Quelqu'un qui passe par des difficultés financières, il ne peut pas payer les factures. Il commence à mettre la parole en pratique. Il prend position. Je vais quand même honorer Dieu avec les prémices de mes revenus. Je vais quand même semer les semences. Je vais quand même déclarer que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Et savez-vous quoi? Des fois, après avoir fait la bonne chose, la situation s'empire. Et c'est là où la plupart des gens vont lâcher prise. Ils vont dire, bon, oublie ça, ça ne marche pas cette affaire. La parole de Dieu, ou la confession de la parole, ou la foi en Dieu, ça marche pas, donc ils ont lâché. C'est fini. Mais ne soyez pas surpris si les choses s'empirent pour une saison. Est-ce que vous m'écoutez? Ce que je vous dis ce matin, ça peut vous sauver la vie. Je vous dis, j'ai vu tellement de personnes lâcher prise et abandonner, justement parce qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu, c'est plutôt les résultats instantané. Mais la foi et la persévérance vont de pair, n'est-ce pas? Donc, continuons. Dans ce passage, on voit quelque chose. Et, regarde bien, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. Est-ce que je l'ai... je ne sais pas si c'est sur le PowerPoint comme il faut. Mais dans vos notes, vous voyez ici, en verset 19, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Donc, regardez bien, ils ont pris position, parce que déjà ils sont sous la pression, et maintenant, au lieu d'être face à un feu qui est déjà chaud, c'est 7 fois plus chaud qu'auparavant. Et vous devrez voir vos yeux, c'est comme... Pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ce matin? Que je vais prendre position pour Dieu, les choses vont aller de pire en pire. Peut-être. Peut-être ce que vous allez voir va s'empirer. Peut-être les symptômes, vous avez cru pour la guérison, peut-être les symptômes vont s'empirer pour une saison. Peut-être les choses que vous voyez vont aller de pire en pire, mais sachez que ce n'est pas la fin de l'histoire. Amen. Alléluia. Donc, regardons bien. Verset 28 commande à quelques-uns des plus vigoureux des soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. N'est-ce pas? C'est intéressant et c'est important de noter qu'ils sont jetés dans la fournaise avec ces vêtements. N'oublions pas que ces trois jeunes hommes ont reçu auparavant une certaine autorité dans le royaume de Nebuchadnezzar. Donc sûrement ils étaient vêtus des vêtements, des caleçons, etc., qui démontraient, qui démarquaient ces hommes comme étant les hommes d'autorité aussi. Okay? Mais ils sont tous vêtus, jetés dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ça ne va pas bien leur affaire. Sept fois plus chaud, les hommes qui sont en train de les jeter dans la fournaise tombent morts. Et ce n'est pas des petits hommes, ce sont des hommes les plus costauds de l'armée. Ils tombent morts et eux autres, ils sont morts, ils sont liés et ils tombent dans la fournaise. Ça va pas bien. Ça regarde pas bien. Sauf que ils avaient pris position, ils ont déclaré une déclaration de la foi. Et regarde bien. Et je pense qu'on est rendu à le troisième point qu'il faut jamais oublier. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes dans une situation où vous ressentez la pression, vous n'êtes pas seul. Ici, ces trois jeunes hommes avaient Dieu avec eux. Mais nous, qui sommes sous une nouvelle alliance, nous avons quelque chose d'encore mieux. Le plus grand est en nous. Plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Donc, si vous êtes au milieu d'une fournaise ardente, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors, verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. » Soulignez cela, il marche au milieu du feu. On va voir, on connaît l'histoire. Ils vont sortir du feu. Mais pour le moment, ils sont encore dans le feu. Mais, ils ne sont pas seuls dans le feu et ils ne sont pas liés dans le feu. Les liens, ils sont déliés et ils sont accompagnés. Et pas accompagnés par n'importe qui, accompagnés par un quatrième homme qui a l'air de quoi? D'un fils de Dieu. Et moi, je suis convaincu, et la plupart des érudits de la parole de Dieu sont d'accord, que ça, c'est une apparition de Jésus avant l'incarnation. On voit ça à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Des fois, on voit l'ange de l'Éternel, etc., qui apparaît. Mais là, on voit, je crois, le Fils de Dieu. Avant son incarnation, on le voit ici avec ces trois jeunes hommes au milieu du feu. Et il marche. Et savez-vous, des fois, vous allez prendre position, vous serez sous la pression sera encore là. Vous avez un problème au travail, vous priez, vous voulez que ça change, des fois, ça va s'empirer, mais vous serez quand même capable de marcher, de fonctionner et de produire des résultats, même avec la pression, parce que vous marchez avec Dieu. Allô, est-ce que vous êtes là? Et ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, on voit cela. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Il est toujours là. Il vous accompagne. Amen. Et puis, verset 26, ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez! » Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Ça nous amène aux quatrièmes choses qu'on peut faire pour rester calme sous la pression. sachez que Dieu changera les choses pour sa gloire. Sachez que la prochaine fois que vous avez quelque chose de difficile, la prochaine fois même que votre tondeuse explose, non. La prochaine fois que votre patron met de la pression ou vous avez des problèmes avec les finances, la prochaine fois que vous avez les attaques dans votre corps physique, les attaques dans votre santé, sachez que Dieu peut changer toutes choses pour sa gloire. Verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Ça me fait penser à ce que Jésus a dit en Luc, chapitre 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Et nul ne pourrait vous nuire. Aucun pouvoir de l'ennemi ne peut vous nuire. La seule chose que l'ennemi peut faire pour nous nuire, c'est quand on lui donne la permission, dans le fond. Est-ce que j'ai dit qu'on n'aura jamais des problèmes, on n'aura jamais des difficultés, on n'aura jamais les douleurs? J'ai jamais dit cela. Mais en réalité, on sait que le feu de l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, à moins qu'on lui donne cette autorité. Et Dieu est capable de changer tout pour sa gloire. Mais regardons bien. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés, ça c'est leur vêtement probablement qui indiquait une certaine position d'autorité. Ça, je ne sais pas à 100%, mais c'est probablement le cas. Parce qu'on sait qu'à l'époque, souvent les personnes étaient vêtues de... C'est comme dans le militaire aujourd'hui, c'est le vêtement qui vont distinguer les personnes. Mais on voit que le caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Je pense qu'on devrait souligner ces choses. Les cheveux de la tête n'étaient pas brûlés, n'est-ce pas? Les vêtements n'étaient pas endommagés. On voit ici, en plus, qu'il n'y avait même pas d'odeur. On continue la lecture ici. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont confiance en Dieu? C'est la confiance en Dieu qui relâche la puissance de Dieu dans notre vie. « Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. » N'oubliez pas que c'est l'homme le plus puissant sur la terre qui parle. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en entorse d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit quoi? Prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc, on voit ici que Dieu change toujours les choses pour sa gloire. Pas toujours de la manière qu'on veut ou qu'on pense, mais il est capable toujours de changer toutes choses pour sa gloire. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que les cheveux de sa tête n'étaient même pas brûlés. Pour moi, ça peut signifier une chose aussi. Ça peut être symbolique. On peut prendre cela comme un symbole de l'importance de garder une mentalité de vainqueur. Hein? Les cheveux de sa tête n'étaient pas brûlés. Tout était intact. Amen? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous êtes face à une situation difficile, quand vous êtes sous la pression, gardez une mentalité de vainqueur. Ne vous laissez pas commencer à penser d'une manière négative. Oh, ça va aller mal. Oh, ça va être un désastre. Oh, c'est toujours comme ça. Oh, c'est toujours moi le premier qui tombe malade. C'est, oh, pourquoi ça arrive à moi? Oh, ça arrive toujours à moi et à ma famille. Oh, cette mentalité, quand on a passer par les feux, ça peut nous détruire. Donc, gardez une mentalité du vainqueur. On continue. C'est quoi l'autre chose qu'on voit? N'oubliez jamais votre autorité en Christ. Les vêtements qu'ils portaient n'étaient même pas endommagés. Et laisse-moi vous dire que la pression de la vie ne peut pas endommager votre autorité en Christ non plus. Le roi Nebuchadnezzar pensait être vraiment quelqu'un. De toute évidence, il a érigé une statue de son propre image. Il pensait que c'est lui qui avait toute autorité. C'est lui qui a confié à Shadrach, Meshach et Abednego une position importante dans son royaume. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Que c'est en réalité Dieu qui les a donné une promotion. Et quand Dieu nous donne une promotion, aucun homme peut l'enlever. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu nous donne une promotion, aucun homme peut l'enlever. Donc cet homme puissant a jeté ses gars dans le feu, mais même les vêtements ne sont pas endommagés. Puis, devenez mûr et non pas amer. Pourquoi je dis ça? Ils ne sentaient même pas. L'odeur du feu n'était même pas sur eux. Vous savez, c'est quoi, hein? On peut aller faire du camping ou quelque chose, on revient à la maison et... Waouh, ça pue, les vêtements sont pleins de fumée, puis on prend une douche même et les cheveux, ouh, c'est... Imaginez être dans une fournaise ardente. Et ça sentait même pas le feu. Et qu'est-ce que je vois là-dedans? C'est que Dieu veut qu'on soit capable de passer à travers des feux de la vie et les difficultés de la vie sans devenir amer. Sans toujours traîner avec nous un bagage émotionnel ou de l'amertume ou des choses que je vais te pardonner mais je vais jamais oublier. On traîne ces choses avec nous et c'est dangereux, ça pue, n'est-ce pas? Et on n'est pas appelé à être une mauvaise odeur. En fait, la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, n'est-ce pas? Donc, sachez, Seigneur, je passe par un temps difficile et souvent, la pression qu'on subit, c'est grâce à la contribution des êtres humains qui nous entourent, n'est-ce pas? Les gens qui nous font mal, les gens qui nous font tort, les gens qui sont injustes et on a le choix, devenir mieux ou devenir amer. Je pense toujours à Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom, combien de vous avez entendu parler d'elle? C'était une femme qui était dans un camp de concentration avec sa sœur. Elle a vu sa sœur tuée et on a vu ses amis, sa famille torturée, mais elle est sortie de ce camp de concentration pas amère, mais mieux. Plus fort dans sa foi, plus fort dans son amour, est capable de pardonner et d'aimer les nazis qui les ont persécutés. Après la guerre, elle a écrit des livres et c'est pour moi quel bon exemple. On a besoin de dire, bon, je vais être un arbre planté, pas un buisson misérable dans le désert. Et pour cela, il faut que je reste calme sous la pression. Pour cela, il faut que je mette ces choses en pratique. Amen. Donc, et puis finalement, attendez-vous aux promotions. Sachez que Dieu va vous promouvoir. Sachez que si vous passez le test, que vous allez graduer. Et le Seigneur va vous donner des promotions. Ici, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont passé le test. Ils n'ont pas fléchi les genoux. Imaginez s'ils auraient fléchi les genoux devant Nebuchadnezzar cette journée-là. OK, c'est correct, je vois et je ressens le feu. Ça ne m'étonne pas d'y aller. Donc, c'est correct. J'adore ton Dieu. On ne serait pas ici des milliers d'années après, en train de parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Personne connaîtrait leur nom. Est-ce que vous connaissez le nom de ces trois hommes qui sont morts quand ils ont jeté les trois hommes dans le feu? Ils s'appelaient comment? Aucune idée. Toutes les autres personnes qui ont fléché les milliers, qui ont fléché les genoux devant la statue, ils s'appelaient comment? Des fois, ça ne vaut pas la peine de faire partie de la foule. Cette foule qui a fléché les genoux, il s'appelait comment? On ne sait pas. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, on les connaît par nom, n'est-ce pas? Et savez-vous que quand vous prenez position pour Dieu en parole et en action, quand vous n'êtes pas surpris quand les circonstances s'empirent, et quand vous vous rappelez toujours que vous n'êtes pas seul, et quand vous savez que Dieu va toujours changer les choses pour sa gloire, Dieu est capable de vous promouvoir. Juste pour terminer, trois versets du Nouveau Testament. Parce que des fois, les gens disent, « Oh, mais là, vous nous donnez des choses de l'Ancien Testament. » Oui, ce sont des principes. Et savez-vous que selon 1 Corinthiens chapitre 10, toutes les choses qui ont été écrites à propos d'Israël ont été écrites pour servir d'un exemple pour nous. On peut apprendre de leurs erreurs, on peut apprendre de leurs victoires, et on peut imiter la foi de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Et ici, il y a trois versets dans le Nouveau Testament qui parlent de ce même principe. 1 Pierre 4, 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. » Tout le monde dit, « Ne soyez pas surpris. » Regarde ton voisin, dit, « Ne soyez pas surpris. » Comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Intéressant, il parle d'une fournaise, n'est-ce pas? Pour vous éprouver, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, si les choses vont mal, ne soyez pas surpris. Mais sachez que Dieu peut changer cela pour sa gloire. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, avez-vous remarqué, c'est pas marqué « si vous passez » Voilà. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, c'est comme un fait de la vie, n'est-ce pas? Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Pas misérable, mais heureux. OK? Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance ou la patience. Mais il faut que votre endurance ou votre patience aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état, quoi? D'adulte. On parle d'être les arbres plantés. Comment être mature et enraciné et inébranlable, même dans un monde bousculé. Parveniez à l'état d'adulte et soyez pleine de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Ça, c'est notre désir. Juste attention, parce que il y a quand même une petite nuance. Il ne faut pas faire l'erreur de croire que les épreuves vont en elles-mêmes vous rendre fort. C'est pas vrai. Une épreuve a le potentiel de vous rendre fort, si vous réagissez de la bonne manière. Si vous êtes patient, et si vous êtes persévérant, et la patience veut dire la constance. Si je dis quand même la bonne chose, je déclare la parole de Dieu, même si ça va mal, si je fais quand même les bons choix, je prends les bonnes décisions, et je suis constant, même sous la pression, ça va finir par me fortifier, et je vais devenir un homme mature. Mais ce n'est pas l'épreuve en elle-même qui va... L'épreuve peut vous faire mal. C'est comme les haltères. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé les haltères? Les haltères? Et ça peut vous rendre fort si vous l'utilisez. Ou si vous prenez la même haltère et vous le laissez tomber sur votre pied... Ah! Ça peut briser votre pied. Ça peut vous faire mal. Vous pouvez avoir des bleus au lieu d'avoir des bons biceps. Vous pouvez perdre des orteils. Et il y a des chrétiens, c'est semblable. Il y a des chrétiens qui ont perdu les membres. Émotionnellement parlant, ils sont blessés, ils sont angoissés, ils sentent le feu. Parce que quand l'artère ou l'épreuve est arrivée, au lieu d'être patient et de mettre leur foi en action, ils se sont laissés aller. Donc, juste, c'est pas une question de « Oh, merci pour les épreuves, merci pour les épreuves. » Poum, 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 ah, ouh, ah. « Oh, merci Seigneur. Oh, je suis heureux parce que je suis éprouvé. Oh, oh, ah, oui, merci Seigneur. » Il y a des chrétiens comme ça. Les mauvaises choses arrivent, ils disent « Oh, merci Seigneur pour cette maladie que tu m'envoies. » Ou « Merci Seigneur pour cette difficulté que tu m'envoies pour me fortifier. » Non, que personne, quand il est tenté, dit que c'est Dieu qui lui tente. Dieu n'est pas tenté par le mal, il tente personne par le mal. Mais quand la chose arrive, on dit, Seigneur, merci pour cette opportunité, pour cette occasion de prouver que tu es Dieu. Ça, c'est, je suis heureux aujourd'hui parce que je vais avoir une occasion de voir ta main puissante agir. C'est pas Dieu qui a réchauffé le feu devant Shadrach, Meshach et Abednego. C'est Nebuchadnezzar et ses hommes. Mais Dieu s'est servi de ce que l'ennemi a voulu pour leur destruction, pour se glorifier. Et il fait la même chose encore aujourd'hui. Amen. Puis finalement, Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu. Et ça nous amène à une autre chose à propos des arbres plantés. Son feuillage reste vert. Et nous allons parler de cela la semaine prochaine parce que ça va de pair avec le message aujourd'hui. Si on veut rester calme sous la pression, il faut faire toutes les choses qu'on vient de dire, mais tout en sachant que l'amour de Dieu est dans notre cœur. Quand on parle de la couleur vert et quand on parle de ce feuillage, on parle de la nature même de Dieu. Et on va parler de cela la semaine prochaine. Comment on peut toujours démontrer nos vraies couleurs en tant que chrétiens, même dans un monde qui est plein de problèmes, plein de difficultés. On est enfants de Dieu. Nous sommes les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'amour de Dieu est dans notre cœur, c'est pourquoi on n'est pas déçu. On a cette victoire dans l'épreuve, parce qu'on reste calme sous la pression. Et on est capable de rester calme sous la pression parce que l'amour de Dieu est dans notre cœur. Amen. On va se lever debout. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Combien de vous voulez être les arbres plantés? Amen. Une chose que je sais, ça prend du temps. Voir un arbre grandir et pousser, devenir fort, ça prend du temps. Ne soyez pas découragés si des fois c'est difficile, ou des fois vous manquez le coche, ou des fois vous perdez votre sang-froid, ou des fois vous ne faites pas exactement comme vous aurez aimé faire. Laissez-vous pas décourager. Mais plutôt dire, Seigneur, merci, je suis pas encore arrivé. Comme j'ai dit, le verset dit, il n'aperçoit pas la chaleur. C'est comme s'il n'est même pas, ça ne le dérange pas. Je ne suis pas arrivé là. J'aperçois quand même la chaleur des fois quand les choses arrivent. Mais, au moins, je ne réagis pas comme je réagissais autrefois. Mais je crois qu'avec le temps, le tronc de mon arbre va devenir de plus en plus gros et fort et costaud. Et à un moment donné, ces choses qui autrefois me dérangeaient beaucoup vont me déranger beaucoup moins. Jusqu'au point où peut-être un jour, je ne vais même pas les apercevoir. Peut-être un jour, je serai capable de m'exprimer mieux en français aussi. Peut-être. Mais sinon, je vais quand même aller au ciel. Où on parle la langue céleste, le français, qui prend une éternité pour l'apprendre, c'est ça. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce matin. On veut les arbres plantés, comme des arbres plantés près des courants d'eau, Seigneur, qui n'aperçoit pas la chaleur, Seigneur. Quand on est sous la pression, on prend les bonnes décisions. On reste constant, persévérant. On considère comme une joie complète, Seigneur, les diverses épreuve, Seigneur, sachant que c'est une occasion de voir ta main puissante agir. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble, mais juste avant de faire une déclaration de la foi ensemble, je veux faire comme on fait tous les dimanches, donner l'occasion à ceux et celles qui sont ici présents, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, de le faire aujourd'hui. Vous savez que si Jésus n'est pas dans votre cœur, vous ne serez pas capable de réagir de la bonne manière. Même quand il est dans notre cœur, on a besoin de développer sa présence et sa nature en nous. Mais si on veut être comme un arbre planté près des courants d'eau, il faut premièrement naître d'une semence incorruptible. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau d'une semence incorruptible, la parole éternelle et permanente de Dieu. C'est Jésus lui-même. Peut-être vous êtes là, vous dites, mais moi, je suis une bonne personne. Je suis, peut-être même je crois, chrétien. Je vais à l'église, ou je lis ma Bible, ou je fais des prières. Vous savez que aller à l'église, lire sa Bible, faire des prières n'est pas assez pour vous donner le droit d'aller au ciel. Soyez honnête, si vous partez d'ici aujourd'hui et votre cœur arrête de battre, et vous tombez mort, et votre esprit quitte votre corps, est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous allez passer l'éternité au ciel avec Jésus? Sinon, j'ai une bonne nouvelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit qu'on ne peut pas mériter, qu'on peut juste recevoir par la foi. C'est un cadeau. Et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et un Seigneur, c'est un maître, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Jésus a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai. » Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas renié leur Dieu. Ils ont confessé leur Dieu. Et aujourd'hui, je vous donne l'occasion de confesser que Jésus-Christ est ton sauveur et ton maître. Je peux tout simplement compter à trois, taper ma main. Si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, juste lève la main haut dans l'air. Je vais faire une prière avec toi pour que tu puisses quitter la salle aujourd'hui en sachant que tu es enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin, un, deux, trois, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être vous l'avez déjà fait. Peut-être vous ne l'avez pas encore fait. Ou peut-être vous êtes éloigné de Jésus. Vous voulez vous approcher de lui aujourd'hui. Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sinon, seulement Dieu sait qu'est-ce qui se passe et quel est l'état de votre cœur. Et j'espère que vous avez déjà pris cette décision. Et sinon, j'aimerais inviter tout le monde ici ce matin à faire cette déclaration avec moi. Merci Seigneur. Je veux être comme un arbre planté près du courant d'eau. Je veux être capable, Seigneur, de rester calme sous la pression. Merci, Seigneur, que tu es avec moi, même au milieu de la fournaise. Et je sais, Seigneur, que tu vas changer toutes les circonstances de la vie pour ta gloire. Merci, Seigneur, que j'arrive à la maturité, la stabilité en toi, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Mercredi soir, à 7 heures, on est ici pour une étude sur comment éviter les pièges de l'ennemi.